Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis bien heureux de vous présenter pour la première fois sur les ondes de Radio Grand Ciel cette émission consacrée à la spiritualité orthodoxe, sagesse orthodoxe. C'est une émission qui vous permettra tous les mois de vous familiariser avec la spiritualité orthodoxe, avec le père Jean-Claude Penthier, qui est un très grand musicien, tout le monde le sait, un grand pianiste, mais aussi, c'est peut-être moins connu, un père, un prêtre orthodoxe rattaché à la métropole orthodoxe roumaine. Le père Jean-Claude, tous les mois, viendra évoquer les rapports entre art et foi orthodoxe. Mais ce mois-ci, c'est à moi d'essuyer les plâtres. Et j'ai décidé de vous parler d'une très haute figure de la spiritualité orthodoxe, une des grandes figures du XIXe siècle. Il s'agit de Saint Séraphim ou Saint Séraphin de Sarov, né Prokhor Isidirovitch Moknin le 19 juillet 1754. Prokhor est le fils d'Isidore Moknin, un briquetier entrepreneur en bâtiment de Koursk, à 500 km au sud de Moscou. À 17 ans, Séraphin rend visite à Dosifeia de Kiev. À 19 ans, il entre comme novice au monastère de Sarov, à 350 km à l'est de Moscou, et 8 ans plus tard, il reçoit, avec son habit de moine, un nouveau nom, Séraphim, ce qui signifie « flamboyant » en hébreu. Ordonné diacre, puis prêtre, il obtient en 1790 de l'higoumène de son monastère la permission de se retirer en ermite dans la forêt. Partageant sa vie entre son ermitage et le monastère de Sarov, il suit une ascèse rigoureuse faite de jeûne, de solitude, d'humilité et de prière, avec comme objectif permanent de se rapprocher du Christ. Il lit la Bible, il lisait le Nouveau Testament en entier chaque semaine, ainsi que les Pères de l'Église. Dans son immense désir de tout rapporter à Jésus, il donne aux environs de son ermitage des noms de lieux bibliques. À Nazareth, il chante les hymnes acathistes à la Vierge, récite les offices de sexte et nonne au Golgotha, lit l'Évangile de la Transfiguration au Mont Tabor et entonne à Bethléem le Gloria. Saint Séraphim adopte même pendant un temps la vie des stylites. Ainsi, durant 1000 jours et nuits, il passe des heures à prier sur un rocher. Cependant, comme lui-même le faisait remarquer à un novice qui l'en louait, en comparaison de Siméon l'Ancien, c'était peu de choses. Un événement qui faillit lui coûter la vie illustre bien le caractère du misérable Séraphin, ainsi qu'il se désignait lui-même. En septembre 1804, il est agressé dans son ermitage par 3 brigands venus d'un village voisin et qui veulent le voler, lui qui ne possède rien. N'ayant rien trouvé, ils le battent et le laissent pour mort avec une fracture du crâne et plusieurs côtes cassées. Plus tard, les brigands sont retrouvés. Le père Séraphim, qui entre-temps a été ramené au monastère, s'oppose formellement à ce qu'il soit châtié. Il leur a pardonné. Après cet incident, son higoumène ne le laissera plus retourner à son ermitage et c'est dans le monastère de Sarov que Séraphim vivra par la suite. Même si, comme tout moine et tout ermite, il reçoit parfois quelques visites, ce n'est qu'à partir de 1822, alors qu'il est déjà âgé de 63 ans, que sa renommée se répand. Il est alors continuellement assailli de visiteurs, fermières du voisinage, militaires, moines, pèlerins, princes, prêtres, femmes du monde, hauts dignitaires de l'Église, commerçants, ils viennent tous par centaines et se pressent autour de lui pour le questionner, pour l'entendre, pour le voir. Et que voit-il ? Un petit vieux, tout blanc, tout ratatiné, tout sec, aux yeux bleus et au sourire incompréhensiblement radieux, un petit vieux qui reçoit chaque visiteur par ses mots « Bonjour, ma joie !» où Christ est ressuscité. Et son accueil, sa sagesse, sa clairvoyance, n'accueille-t-il pas certaines personnes par ces mots « Je sais, je sais » les faisant passer devant tout le monde, leur prodiguant conseils et consolations avant même qu'ils aient dit qui ils étaient ou pourquoi ils venaient. Il leur apporte encouragement, apaisement. Cependant, son empathie, on disait alors don de préconnaissance, Son empathie et ses conseils ne sont pas les seules raisons de la popularité du Père Séraphin. Beaucoup de malades viennent le voir et obtiennent par ses prières des guérisons, dont les plus spectaculaires sont celles de Mikhaïl Montourov et de Nikolaï Motovilov. Malgré les tracasseries que lui inflige parfois sa hiérarchie, avait-on déjà vu un moine aussi indiscipliné ? Il peut, grâce à Montourov, fonder une communauté monastique de femmes à Divéyevo, c'est à quelques kilomètres du monastère de Sarov. Et il aura, avec Motovilov, un long entretien qui, consigné par écrit, est considéré comme l'un des sommets de la spiritualité orthodoxe. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1833, quoi que l'on fût dans le temps de Noël, on l'entend chanter les hymnes de Pâques, notamment le tropaire de la résurrection. Ce seront ses dernières paroles. Il est trouvé au petit matin dans sa cellule, agenouillé, comme en prière, devant une icône de la Théotokos, la Sainte Vierge qui porte le Christ, la Théotokos, celle qui est la Mère de Dieu. On le retrouve mort, agenouillé, en prière, devant l'icône de la Sainte Vierge. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de Saint Séraphim de Sarov et vous lire quelques brefs extraits de l'entretien avec Motovilov, qui est l'un des sommets de la spiritualité orthodoxe. Hein. Motovilov, je vous en ai parlé à l'instant, Nikolaï Motovilov, qui avait été guéri miraculeusement par Saint Séraphim de Sarov et qui est devenu l'un des familiers du grand saint. Voici quelques passages donc des entretiens de Motovilov. Celui qui parle, c'est Motovilov. C'était un jeudi. Le ciel était gris, la terre était couverte de neige, et d'épais flocons continuaient à tourbillonner lorsque le père Séraphim engagea notre conversation dans une clairière près de son petit ermitage, face à la rivière Sarovka coulant au pied de la colline. Il me fit asseoir sur le tronc d'un arbre qu'il venait d'abattre et lui-même s'accroupit en face de moi. « Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staret, que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne et que vous aviez maintes fois interrogé à ce sujet des personnages, même haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Mais personne ne vous a rien dit de précis. » On vous conseillait d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien. Tel, disait-on, était le but de la vie chrétienne. Certains même désapprouvaient votre curiosité, la trouvant déplacée et impie. Mais ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphim, je vous expliquerai maintenant en quoi ce but réellement consiste. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. La prière, le jeûne, les veilles et autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Remarquez que seule une bonne action faite au nom du Christ nous procure les fruits du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas fait en son nom, même le bien, ne nous procure aucune récompense dans le siècle à venir. Et en cette vie non plus ne nous donne pas la grâce divine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait « Celui qui n'amasse pas avec moi, dissipe ». On est pourtant obligé d'appeler une bonne action amassage ou récolte, car même si elle n'est pas faite au nom du Christ, elle reste bonne. L'Écriture dit « En toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. » Le centurion Corneille, qui craignait Dieu et agissait selon la justice, fut visité pendant qu'il était en prière par un ange du Seigneur qui lui dit « Envoie des hommes à Joppé chez Simon le corroyeur, tu y trouveras un certain Pierre qui te fera entendre des paroles de vie éternelle par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » On voit donc que le Seigneur emploie ses moyens divins pour permettre à un tel homme de ne pas être privé dans l'éternité de la récompense qui lui est due. Mais pour l'obtenir, il faut que dès ici-bas, il commence par croire en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu descendu sur terre pour sauver les pécheurs, ainsi que pour acquérir la grâce du Saint-Esprit qui introduit dans nos cœurs le royaume de Dieu et nous ferait le chemin de la béatitude du siècle à venir. Là s'arrête la satisfaction que procurent à Dieu les bonnes actions qui ne sont pas commises au nom du Christ. Le Seigneur nous donne les moyens de les parachever, à l'homme d'en profiter ou non. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux Juifs, « Si vous étiez des aveugles, vous seriez sans péché. » Mais vous dites, « Nous voyons !» Votre péché demeure. Quand un homme comme Corneille, dont l'œuvre qui n'a pas été faite au nom du Christ, mais qui a été agréable à Dieu, se met à croire en son Fils, cette œuvre lui est comptée comme faite au nom du Christ, à cause de sa foi en lui. Dans le cas contraire, l'homme n'a pas le droit de se plaindre que le bien accompli ne lui a pas été profitable. Cela n'arrive jamais quand une bonne action a été faite au nom du Christ, car le bien accompli en son nom apporte non seulement une couronne de gloire dans le siècle à venir, mais dès ici-bas remplit l'homme de la grâce du Saint-Esprit. Comme il a été dit, Dieu donne l'Esprit sans mesure, le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. C'est donc dans l'acquisition de cet Esprit de Dieu que consiste le vrai but de notre vie chrétienne, tandis que la prière, l'éveil, le jeûne, l'aumône et les autres actions vertueuses faites au nom du Christ ne sont que des moyens pour l'acquérir. « Comment l'acquisition ?» demandai-je au Père Séraphin. « Je ne comprends pas très bien. » « L'acquisition, c'est la même chose que l'obtention. Vous savez ce que c'est que d'acquérir de l'argent. » Pour le Saint-Esprit, c'est pareil. Pour les gens du commun, le but de la vie consiste en l'acquisition d'argent, le gain. Les nobles, en plus, désirent obtenir des honneurs, des marques de distinction et autres récompenses accordées pour des services rendus à l'État. L'acquisition du Saint-Esprit est aussi un capital, mais un capital éternel, dispensateur de grâce, très semblable aux capitaux temporels et qui s'obtient par les mêmes procédés. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu-homme, compare notre vie à un marché et notre activité sur terre à un commerce. Il nous recommande à tous « Négociez jusqu'à ce que je vienne en économisant le temps, car les jours sont incertains. » Autrement dit, « Dépêchez-vous d'obtenir des biens célestes en négociant des marchandises terrestres. Ces marchandises terrestres ne sont autres que les actions vertueuses faites au nom du Christ et qui nous apportent la grâce du Saint-Esprit. » Dans la parabole des vierges sages, des vierges folles, quand ces dernières manquèrent d'huile, il leur fut dit « Allez en acheter au marché ». Mais en revenant, elles trouvèrent la porte de la chambre nuptiale close et ne purent entrer. Certains estiment que le manque d'huile chez les vierges folles symbolise l'insuffisance d'actions vertueuses faites dans le courant de leur vie. Une telle interprétation n'est pas entièrement juste. Quel manque d'actions vertueuses pouvait-il y avoir puisqu'elles étaient appelées « vierges », quoique « folles ». La virginité est une haute vertu, un état quasi angélique, pouvant remplacer toutes les autres vertus. Moi, misérable, je pense qu'il leur manquait justement le Saint-Esprit de Dieu. Tout en pratiquant des vertus, ces vierges spirituellement ignorantes croyaient que la vie chrétienne consistait dans ces pratiques. Nous avons agi d'une façon vertueuse, nous avons fait œuvre pie, pensaient-elles, sans se soucier si oui ou non elles avaient reçu la grâce du Saint-Esprit. De ce genre de vie basée uniquement sur la pratique des vertus morales, sans un examen minutieux pour savoir si elle nous apporte et en quelle quantité, la grâce de l'Esprit de Dieu, il a été dit dans les livres patristiques, certaines voies, qui paraissent bonnes au début, conduisent à l'abîme infernal. Voilà, je vous laisse sur ces paroles de Saint Séraphim de Sarov. On se retrouve le mois prochain. Peut-être que je reprendrai, sans doute même, cette lecture de l'entretien avec Motovilov, qui résume à lui seul cette spiritualité de Saint Séraphim de Sarov. Excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancel et à tout bientôt.